des formes utiles. L'art et ses récits, une émission proposée par Fabiola Bodoy. La chose semblait comme sans doute absolument certaine.
Nous sommes sur Radio Cause Commune, 93.1 FM. Vous écoutez Des formes utiles, l'art et ses récits. J'ai l'immense plaisir d'avoir avec moi au studio Jacqueline Gamard, script. Un métier encore toujours peu connu, invisible ou invisibilisé, peu ou pas assez valorisé, qui l'a amené à travailler avec quelques grands noms du cinéma mondial, une carrière qui l'a fait voyager dans 32 pays, qui lui a permis de faire des rencontres précieuses. Créatrice dans les années 90 avec Sylvette Baudreau, Zoé Zurstrassen et Lucette Andrei du département script de la FEMIS, l'école des métiers du cinéma, une des plus prestigieuses écoles de cinéma au monde, Jacqueline Gamard pourrait raconter à travers son métier une des histoires du cinéma. Lorsqu'on parle cinéma, on a tendance à oublier qu'un film est une création collective, qu'à côté des noms qui viennent de suite à l'esprit, ceux des réalisateurs et des réalisatrices, des acteurs et des actrices mentionnés sur l'affiche, de ceux qui figurent sur le générique du début, producteur, scénariste, chef opérateur, compositeur de la bande-son, il y a les moins visibles, dont la, le, plus rarement script. Script, un métier dans l'ombre. Bonjour Jacqueline Gamard.
Bonjour Fabiola.
La script est la mémoire du film. Ça fait clochette, elle me reparle du scénario quand je m'en éloigne plus ou moins volontairement, elle s'assure qu'il s'agit d'un choix et non d'un oubli. Elle assure la continuité du film, non seulement les raccords localement, mais aussi la cohérence globale, dit Bruno Podalides. Le Larousse dit, auxiliaire du réalisateur chargé de noter tous les détails techniques et artistiques de chaque prise de vue, et propose comme synonyme secrétaire de Platon. C'est assez sommaire.
Un peu sommaire.
Alors c'est quoi la script, Jacqueline Gamard?
C'est quoi sur le plateau?
Sur le plateau.
On n'arrive pas comme ça tout nu sur le plateau, on a travaillé beaucoup. Avant de lire le scénario, le dépouiller, assurer une continuité qui est notre document de base et auquel on va se référer sans arrêt puisqu'il y a ce qui se passe avant, ce qui se passe après, les raccords avant et après. Et sur le plateau, ben, on s'assure que tout roule en continuité. Continuité des costumes, du maquillage, de la coiffure, continuité des accessoires, continuité des véhicules. Sur le texte, on doit aussi suivre le texte, que l'acteur ne se trompe pas, n'en oublie pas. S'il improvise, que ce soit cohérent avec ce qu'on raconte.
Vous êtes amené à faire des modifications sur le scénario ou
Moi non, mais je peux souligner, quand je suis en préparation, je peux souligner des incohérences. Parce que malheureusement, depuis qu'existent les ordinateurs, on fait des copier-coller. Et puis vous vous apercevez qu'un personnage s'appelle Michel, et puis tout d'un coup c'est Suzanne. Mais c'est le même personnage et il n'y a pas d'effet, c'est simplement qu'on a essayé de changer, mais on n'a pas corrigé. Donc nous, on doit être en alerte perpétuelle avec la loupe de Sherlock Holmes pour dire « mais c'est normal qu'elle s'appelle Michel Suzanne », et puis on corrige.
Donc vous êtes en relation avec tous les métiers qui sont...
C'est ça qui est magnifique dans ce métier, c'est qu'on travaille avec la déco, avec le maquillage, coiffure, costume, avec le réalisateur, avec l'assistant...
Mais alors, pourquoi ce métier n'a pas une reconnaissance, ni en termes de rémunération, ni de visibilité, de valorisation?
Basiquement, parce qu'il est fait par des femmes, donc ça vaut pas grand-chose. Et c'est tout.
Par contre, il faudrait quand même que je dise que dans la Convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012, on appelle script collaborateur technique et artistique du réalisateur. Il fait le lien avec le directeur de production et le monteur, notamment via les rapports artistiques et administratifs. Pendant la préparation, il est chargé de préminuter le scénario et d'établir une continuité chronologique. Responsable de la continuité, il veille à sa bonne mise en œuvre pendant le tournage.
C'est la partie artistique. On a forcé la main, on a forcé la porte, on a mis le pied dans la porte, on nous ne demandez pas de collaboration artistique, mais à partir du moment où vous connaissez le scénario par cœur dans tous les sens, que vous voyez les acteurs, vous pouvez proposer des choses. Après, c'est l'harmonie que vous avez avec le metteur en scène qui vous dit « non, tais-toi, c'est mon travail » ou qui dit « ah oui, c'est intéressant ça » et qui va l'intégrer dans son travail. Mais à l'origine, c'est vraiment purement technique.
Et quand vous dites « vous, on s'est battu dans un syndicat »,
il n'y a pas de syndicat des scripts, mais il y a des syndicats de techniciens. Et puis, si on a compris qu'en étant active auprès du réalisateur, c'était apprécié, on s'est jeté dans le débat.
Je viens de lire aussi qu'au Mexique, tout assistant metteur en scène est obligé de passer par la fonction de script boy pour gagner ses galons de futur metteur en scène.
Et ça, c'est une très 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 bonne idée.
Et aux États-Unis, apparemment, l'idée est venue pour la première fois d'amener des script boys à l'occasion des tournages de western, puisque les conditions
Exactement,
de tournage étaient...
c'était pas terrible pour les filles.
Mais bon, en France, pour l'instant, il n'y a pas vraiment
Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a eu un qui était très connu et qui était formidable, Patrick Aubry. Je crois qu'il est mort. À la FEMIS, on essaie de former des garçons. Quand on est avec eux sur les troncs communs, alors, à l'école de cinéma, tous les étudiants sont tous ensemble à faire tous les métiers.
Pendant la première année, non ?
Pendant la première année, donc ils sont amenés à faire script sur les travaux de leurs camarades. Et ça les intéresse beaucoup. Mais effectivement, quand ils voient les conditions dans lesquelles ça s'exerce, ils disent « bah non, on va rester réalisateur, c'est mieux ».
J'ai trouvé quelque chose de très intéressant dans le mémoire de sociologie d'Anaïs Feuillette en 2004, le métier de script, qui dit « En fait, ce qui est difficile avec le boulot de script, c'est que c'est le métier dans le cinéma où, en fin de compte, quand le film est terminé, on ne voit pas le travail de la script que s'il y a des défauts. Alors que les autres métiers sont récompensés pour leur créativité, on voit les costumes, on voit la coiffure, tout se voit, tandis que la script, si on pense à elle, c'est qu'elle a fait une erreur. » Du coup, c'est une position comme ça, toujours négative. L'efficacité d'une telle absence, entre guillemets, est bien plus difficile à faire reconnaître qu'une performance d'acteur, qu'une mise en scène, une lumière ou un maquillage. La position de script est tout entière résumée dans ce paradoxe. Plus elle existe, moins on la voit, plus on ignore qu'elle existe.
C'est juste en théorie, mais ça se passe pas exactement comme ça. On n'a pas besoin d'être en... On a choisi d'être derrière et de faire le travail. On a choisi, donc c'est pas très grave.
Mais en fait, ce qu'elle dit, c'est qu'au moment où un raccord est mal fait, c'est là qu'on pense à la script.
Ah ben là, on se fait attraper, oui.
Oui.
Mais il y a parfois de faux raccords qui apparaissent au montage. Parce que le monteur décide qu'une scène où la fillette a une petite robe bleue, si elle la met un petit peu plus loin dans le scénario, ce sera plus clair par rapport à ce qu'ils sont en train d'imaginer. Et la petite robe bleue, elle n'est pas raccord, et puis tout le monde s'en fiche. Et puis, en principe, le spectateur ne le voit pas.
Mais dites-nous, qu'est-ce que c'est un raccord ?
Alors, le principe du raccord, c'est que comme on ne tourne pas un film dans l'ordre où vous allez le lire sur un scénario ou vous allez le voir à l'écran, on tourne par petits bouts qu'on regroupe en fonction des décors, principalement, mais aussi pour un acteur très cher qui va repartir aux États-Unis. On lui fait faire toutes les scènes qu'il a à faire
dans un laps de temps.
Dans un laps de temps le plus court possible. Donc, ce sera des petits bouts épars, et nous, grâce à notre continuité, on saura que la première scène qu'on tourne avec lui, c'est le troisième jour de l'histoire de la continuité, et puis le cinquième jour, que le troisième jour, il pleuvait quand il est arrivé en studio, donc il faut qu'il soit peut-être un petit peu mouillé, ou peut-être les chaussures pas parfaitement lustrées. Ça se reconstitue au montage. Tout doit être lissé, on ne doit pas voir qu'on a tourné dans le désordre. C'est pour ça qu'il y a des raccords de coiffure, des raccords d'émotion aussi pour l'acteur. On lui dit, là, t'es allé au studio, tu t'es fait virer. Donc les scènes qu'on tournera après dans la rue, il aura toujours les chaussures pas lustrées, parce qu'il avait plus quand il rentrait dans le studio, mais il sera un peu abattu parce qu'il vient d'apprendre qu'il n'avait plus de boulot.
Et donc vous notez tout ça dans des rapports ?
On note tout ça dans des rapports.
Et ça rapporte
surtout,
au quotidien ?
Pardon, on commence à le noter dans le scénario. Parce que je noterai dans mon scénario « pluie ». Alors, c'est de la pluie qui est écrite au scénario, et à ce moment-là, c'est de la pluie artificielle qui est assurée par les pompiers ou par les effets spéciaux ou par l'accessoiriste. Ça dépend si c'est une petite pluie de rien du tout ou une énorme pluie. Ça, si c'est dans le scénario, je noterai tout ce qui en découle, mais il se peut que le jour où il arrive en studio dans la rue, il pleut. Et ben, moi, je mettrai dans mon scénario « raccord pluie ». C'est-à-dire... chaussures pas lustrées, peut-être imperméables, peut-être parapluie, pas de parapluie, cheveux mouillés. Mais je le note avec des petites lignes pour dire de là à là, il faut qu'il soit mouillé.
Donc,
enfin, il y a un effet pluie.
Oui, vous faites un rapport quotidien, donc après chaque jour de tournage.
Alors, chaque jour de tournage, je fais un rapport pour le laboratoire, ce qu'on a tourné sur la caméra, un rapport montage. Séquence par séquence, plan par plan, avec des petites notes prises par prise. C'est bon pour le réalisateur, c'est bon pour le son, c'est pas bon pour la caméra. Chacun fait vite le tour en disant c'est bon pour toi, c'est bon pour toi, c'est bon pour toi. Et je note tout ce que me disent tout le monde. Et ça, ça va au montage.
Donc, il y a un rapport pour le montage, un rapport
pour le laboratoire.
Pour le laboratoire,
et
il y a la bobine aussi.
En fin
aussi.
De journée, oui, sur la scène qu'on a tournée, où est-ce qu'on va la retrouver dans les milliers de kilomètres de pellicules autrefois et de petites disquettes qui sont dans les caméras modernes. Et puis, en fin de journée, un rapport de production. On a tourné l'extérieur studio, l'intérieur studio. On a tourné les séquences numéro du scénario, terminé, pas terminé, ce qui reste à faire. On a fait combien de plans, quels acteurs étaient présents, si on a des voitures, toutes les choses qu'on a louées pour ce jour-là. Peut-être une grue, je ne note pas qu'il y a une caméra parce qu'elle est là tous les jours, mais s'il y a une grue, oui, je le note parce qu'il y a la facture qui va arriver. Donc à la production, ils savent, et ça correspond en principe à la feuille de service.
Et c'est ça qui compte aussi pour les assurances, s'il y a un incident ou...
Absolument. Alors ça, c'est encore un autre
rapport. Ah, c'est un autre rapport.
C'est un autre rapport qu'on fait, qui est le journal de bord, où on écrit ce qu'on fait à la minute. Parce que ça peut intéresser la production de dire, mais pourquoi ils ont passé une heure à faire ce plan du studio qui était pas si compliqué que ça? Ben oui, mais il a fallu amener l'électricité parce qu'il y a eu une panne de secteur, donc on a appelé un groupe électrogène qui arrive sur le rapport de production en disant on a été obligé de le faire venir en plus. Et puis bon, bah, l'acteur était en retard, alors on essaie de pas trop le dire, mais bah, si c'est en retard parce qu'il y a eu un accident, évidemment il faut le noter. Il faut noter tous les accidents, petits ou gros, de tous les gens de l'équipe qui sont avec nous pour les assurances.
Donc là, grosso modo, c'est 4 rapports.
Ouais.
Quotidien.
Quotidien.
Mais revenons à vos débuts. Vous êtes à Milan depuis 5 ans, vous êtes très jeune, vous gagnez bien votre vie, mais la structure française pour laquelle vous travaillez doit fermer et vous devez prendre une décision. Vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé?
J'étais en Italie, je me suis dit, je loue une maison en Toscane, je lis tous mes livres. Très mauvaise idée. Je fais le tour du monde, bonne idée, mais quelqu'un là-bas à Milan m'a dit « Tu devrais faire l'école de script à Bruxelles parce que ça t'irait très bien. » Et moi, j'ai ouvert de grands yeux parce que ça m'était jamais venu à l'idée vu que c'était pas du tout mon milieu, que mes parents étaient pas du tout là-dedans. Et je ne savais même pas ce que faisait une script. Et un ami de cet ami m'a reçu à Genève et j'oublierai jamais le moment que j'ai passé devant sa maison en bois, près de l'aéroport de Genève, où il m'a raconté ce que faisait une script. Et j'ai dit « Ah ouais, d'accord, ça me plairait bien. » Donc je me suis dit, je vais toujours aller passer le concours à Bruxelles. Si je l'ai, tant mieux. Si je l'ai pas, reste le tour du monde. Et puis, j'ai eu le concours de Bruxelles et c'est parti.
C'était combien d'années?
C'était 2 ans, 2 ans et demi. Après, il y a les stages. Parce qu'évidemment, le diplôme de Bruxelles n'est pas reconnu en France par le CNC. Donc, je repartais à zéro, mais avec mon expérience d'école de cinéma. Et donc, là, je devais faire des stages. La script qui enseignait à l'école de Bruxelles était une script française, Colette Crochot, qui était une grande, grande script, qui avait travaillé sur Casque d'or de Jacques Becker, enfin vraiment de très gros films. Et donc, elle m'a emmenée sur un film de Gérard Houry, où je me suis retrouvée script de deuxième équipe. Et puis après, la même personne a fait un film avec Jeanne Moreau, où là, il y avait personne aux accessoires. Elle m'a dit, bah tiens, tu vas t'occuper des accessoires. Et c'est un vrai métier, je savais pas le faire. Bon, des fois, c'était pas facile, mais bon, ils avaient pitié de moi. Et puis le troisième, elle a appelé son amie Sylvette Baudreau et elle lui a demandé si elle pouvait me prendre en stage. Et là, Sylvette m'a pris sur test de Polanski. Et là, on était en 1981. C'est-à-dire que j'ai enchaîné mes stages de 78 à 80 et là, j'avais terminé. Et après, bah, je commençais.
Donc, il fallait tout ça pour avoir la carte.
Il fallait avoir la carte professionnelle à l'époque.
Mais il y avait une école de script en France?
Alors, à l'époque, il n'y avait pas de formation de script en France. Il y avait eu autrefois à l'IDEC une formation qui avait disparu, je crois, je suis pas sûre, qui avait disparu. Et le métier en France disait non, mais il faut former les scripts, c'est pas possible, c'est n'importe quoi. Les producteurs nous envoient leur petit ami en croyant que c'est facile d'avoir un cahier dans la main puis de se dandiner sur les plateaux. Non, 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 il nous faut. Enfin, donc, Sylvette a mis son pied dans la porte de la FEMIS, et a dit, moi, je vais assurer une formation.
Mais comment ça se fait qu'ils reconnaissaient, c'est ça que je comprenais pas, comment ça se fait qu'ils reconnaissaient pas un diplôme de script de Bruxelles, alors qu'il y avait pas
Parce
de formation
c'est
de
comme
script?
Ça, c'est comme ça en France. Un médecin qui est un médecin libanais travaille pas en France. Ou alors,
oui, mais
pour 10 fois moins cher.
Mais il y a des équivalences, on peut quand même,
Ben non, mais c'était pas prévu. C'était pas prévu. Donc, les quatre que vous avez cités en début de programme, ben, on s'est mis sur le coin de notre table de cuisine. On a fait un programme. On a fait des... Qu'est-ce qu'on pouvait faire passer comme examen à des jeunes filles pour dire « Ah ouais, ça fera des bonnes scripts ou pas ?» Donc, on a inventé ça, toutes les quatre, en s'amusant très fort. Et puis, ben, on a eu le pied... Sylvette a gardé le pied dans la porte pendant des années. On a travaillé gratuitement pendant 10 ans. Jusqu'à ce qu'un jour on dise « Ah oui, tiens, c'est vrai, il y a des scripts. Ah oui, tiens, on va faire une section. »
On va en parler plus précisément de tout ça dans la deuxième partie de l'entretien. Et votre premier film en tant que script, un film où vous étiez pas
J'étais
stagiaire.
La patronne. Ben, c'était, alors, Colette Crochot, dans sa grande bonté, m'a passé ses clients. Donc, quand elle a pris sa retraite, elle m'a donné Gérard Houry, grand monsieur. Et elle m'a donné André Delvaux, qui était professeur à l'école de cinéma en Belgique et qui est un immense réalisateur, qui a un petit peu perdu des radars en ce moment, mais qui est là. Je veux dire, dès que quelqu'un de jeune regardera un film, il voudra tous les regarder et il ressortira parce que c'est un grand, grand metteur en scène.
Donc, c'était une bonne expérience.
Excellente.
Et ça marche un peu comme ça, en fait?
Ça marche uniquement comme ça.
Ah, uniquement comme ça.
Vous avez fait un travail, on vous a trouvé agréable, sympathique, compétent. Donc, le producteur ou l'assistant à la mise en scène ou le réalisateur disent bah, « je voudrais travailler avec cette personne ». Vous êtes libre, vous êtes libre.
Mais c'est les intermittents du spectacle, non? C'est
on ça est fait... intermittent
vous
du spectacle,
intermittent
c'est-à-dire
spectacle.
On ne sait absolument pas ce qu'on va faire 3 mois plus tard. Et on accepte ce genre de vie, il y en a qui se terrorisent complètement. Mais quand vous avez de la chance, parce qu'il faut vraiment avoir beaucoup de chance, il faut vraiment avoir 2 ailes d'ange bien accrochées dans le dos pour avoir la chance d'avoir le contrat suivant.
Parce que c'est pas vous donc qui envoyez des CV ou genre...
À l'époque, ça se faisait pas. Il y a toujours des gens qui téléphonaient à droite à gauche pour dire « Ah, je vous rappelle que je suis libre », mais en principe, on vous appelle. Ça plaît pas trop, les coups de téléphone, disant « Ah oui, mais comment tu prends ma chine ? Elle est pas très bien, mais tu sais que moi je suis libre. » Ça se fait pas.
Est-ce que vous pourriez décrire en grande ligne pour nos auditeurs, nos auditrices, le matériel que vous emportez avec vous sur un tournage?
Alors, il y a 2 parties. Il y a la partie costume, qui est la technique de l'oignon. C'est-à-dire qu'il faut avoir un t-shirt avec un pull vert, avec une veste imperméable, à capuche de préférence, parce que vous n'avez pas... Voilà, le chapeau, c'est pas pratique. Et le parapluie, on oublie, vu qu'on a les cahiers dans les bras, le chronomètre et les crayons. Donc, pas de parapluie. De très bonnes chaussures. On est évidemment en pantalon. Parce que si vous devez grimper à une échelle pour faire un Polaroid raccord ou une photo raccord...
Vous retrouvez... Donc, vous faites des photos aussi?
Oui. Ben, ça, je vous raconterai après.
D'accord.
Ça va venir avec le matériel. Bon, vous faites votre photo en haut de l'échelle. Évidemment, vous avez 3 machinots en dessous qui sont là en train de se régaler. Non, ça ne fait pas. Donc, on a un très bon équipement qu'on peut retirer, remettre, retirer, remettre. C'est pour ça que je l'appelle l'oignon. Parce que...
Bon, il y a plusieurs couches.
Voilà, ouais. Plusieurs couches qu'on peut ajouter, retirer. Et puis, il y a la partie, je dirais, technique, qui est un grand sac. Alors, quand j'étais très jeune, j'avais un grand sac de berger landais en cuir. Mais je m'aperçois aujourd'hui que vite, je peux même plus le soulever. Mais c'était un grand sac avec plein de poches. Alors, il y avait la poche pour mes papiers et mon porte-monnaie, la poche pour mes crayons de sauvegarde, mes gommes de sauvegarde, et puis le scénario, ma continuité, la feuille de service, les cahiers de rapport, Et au début, l'appareil Polaroid, très vite, enfin, dès qu'il y avait des évolutions techniques, on lâchait le vieux matériel pour passer au nouveau. Donc, à un moment, je suis passée à l'appareil photo. Mais c'était pas très pratique parce qu'il fallait faire développer les photos. Et le jour où on a eu le numérique, c'était à peu près dans les années 2000. Et c'était génial parce qu'on avait tout de suite la photo, on l'a conservée avec nous. Mais après, il fallait penser le soir à mettre les photos du jour dans un dossier avec le numéro de la séquence. Et comme sur la journée de travail, il y avait plusieurs séquences, c'est-à-dire, ah, j'ai fait 3 fois l'intérieur du frigo, mais je sais pas à quoi ça correspond. Parce qu'évidemment, 3 fois l'intérieur du frigo, c'est 3 jours différents. Donc un jour, il y a des yaourts, un jour, il y a de la confiture de fraises, un jour, il y a un gigot. Ça raccorde avec quelle séquence? Donc, on a vite compris qu'il fallait faire une photo du clap ou du numéro de la séquence en tête de la séquence qu'on tournait. Et puis, refaire la photo du clap pour la séquence d'après. Donc, vous saviez la porte du frigo sur quelle séquence elle jouait. Et le soir, eh ben, on ouvre des dossiers avec les numéros de séquence et on glisse les photos pour les jours suivants.
Donc, en fait, le travail, ça s'arrête pas une fois que vous partez du plateau?
Bien sûr que non. Bien sûr que non.
Mais
non,
ça rémunérait?
Ah, pas du tout. Non, non, bah non, t'es pas obligé. Bon, là, j'ai fait une mimique qui est tout à fait radiophonique et vous la raconterez.
Non, mais je pense que ça se comprend, autant.
Et donc, oui, qu'est-ce qu'il y a encore dans mes... Ben, si, non, j'ai bien sûr que j'ai mon grand sac, mais j'ai autour de la taille une petite trousse qui doit faire 15 par 10, dans laquelle il y a mon chronomètre accroché à mon cou, mais il est long pour que je puisse l'enrouler autour de mon scénario que j'ai sur les bras. Et quand je m'en sers pas, quand je l'ai pas à la main, il est glissé dans la petite trousse.
Et ça doit être long pour pas, vous m'aviez dit, pour pas que ça vous...
Pour pas que ça m'étrangle. Il doit être long. Sylvette, elle l'a comme un médaillon. Moi, j'avais choisi long pour l'enrouler autour de mon bloc scénario continuité feuille de service. Et il est dans ma main droite. Et sinon, je le glisse dans ma petite pochette à la taille. Dans cette pochette, il y a une gomme, il y a un porte-mine. Parce que je me
suis
aperçue...
Donc c'est toujours au crayon, pas au stylo.
Sur le scénario, c'est toujours au crayon pour pouvoir gommer. Et je suis passée très vite du crayon au porte-mine, parce que le crayon, il fallait le l'aiguiser de temps en temps, et le taille-crayon, il est jamais là où il faudrait, et on perd du temps à tailler les crayons. Alors que le porte-mine, clac, 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 ça vient. Et un crayon à billes pour faire les rapports, parce que autrefois, on faisait les rapports avec des papiers carbone entre chaque feuille, parce qu'il fallait garder une copie, envoyer une copie, enfin, on envoyait l'original au laboratoire, on gardait nous une copie et on en donnait une à la production, donc il fallait 3 copies. Donc, crayon à billes, et là aussi, pas un crayon à billes avec un bouchon, parce que le bouchon, il disparaît, et vous avez des taches de crayon à billes partout sur vous, et c'est très vilain. Donc, le clic-clac. Mais j'en ai 3 ou 4 en réserve dans les poches de mon gros sac. Et puis, un outil que j'adore, c'est le crayon de charpentier rouge et bleu, qui me permettait, parce que sur mon scénario, je dessinais, ou sur mon guide brouillon, je dessinais un plan du décor avec les positions de caméra, les petites filles en rouge et les petits garçons en bleu. Mais je faisais aussi les lampes allumées en rouge et les lampes éteintes en bleu, parce que c'est des raccords. Vous voyez, dans notre studio, ben, y a une lampe allumée, elle serait rouge. Les autres lampes qui sont éteintes, elles seraient bleues. Parce qu'on me demandera de les raccorder, même si c'est pas moi qui les allume. Elles font partie du jeu. Et bah, je vous raconterai, si vous voulez, une histoire avec Wim Wenders et mon crayon rouge et bleu. Parce
oui,
que
j'aime
énormément. Je ne sais pas si vous l'avez, celle-là. Oui,
bah,
oui
c'est si, possible. Le nom,
oui, oui.
Le
crayon.
Le
oui.
crayon
oui,
le oui, crayon oui, rouge sur les oui. Bonjour d'Aran Wells. Mmh.
Ouais. Ouais, ouais.
Et tout ça inclut l'appareil photo chronomètre, on vous les vôtres.
Bien sûr que si.
Non, mais on vous les achète.
Non, non.
Ah.
Non, non. Non, non, c'est
ah,
à
c'est
nous,
votre...
c'est notre matériel à nous, et depuis qu'il y a les ordinateurs sur le plateau, les productions ont fini par accepter de verser une petite somme au script, parce que même quand elles travaillent avec un ordinateur, c'est leur propriété privée, mais les productions ont fini par accepter de donner une petite somme pour la location de votre ordinateur, mais avant, non. Tout votre matériel est à vous, et puis, bah, tant pis, voilà.
Ça m'a étonné, j'avais lu une fois dans un livre policier, ça se passe à Boston. Ben, la police, au début du XXe siècle, ben, elle devait s'acheter tout. Les armes,
ouais,
l'uniforme.
Ouais. Ben oui, mais maintenant les postiers,
oui.
la SNCF, c'est des uniformes nationaux. Mais pour revenir au plateau de cinéma, les machinistes louent ce qu'ils appellent la bijoute. Le mot technique, c'est une boîte en bois qui est fabriquée par un artisan, dans laquelle on glisse les claps. Il y a 2-3 outils de base. Il loue les, ce qu'on appelle les cubes, qui sont des boîtes qui servent à faire les constructions, parce qu'il manque, on ne peut rien accrocher nulle part. Il faut qu'on soit mobile. Et c'est du matériel qu'on empile et on met la caméra sur une base et se tient avec des boîtes en bois. Et ça, eux, ils louent. Les électriciens louent leur matériel, les.
Vous voulez dire louent à leur frais?
Non, louent à la production. Ce qui leur appartient, eux, ils peuvent louer. Les accessoiristes, alors, louent un camion entier, mais ça, c'est absolument indispensable. Mais nous, non, on loue pas. On va pas louer un chronomètre, ils seraient morts de rire.
Ah, mais je pensais à l'appareil photo, j'en sais pas les choses qui sont plus.
On leur a donné de mauvaises habitudes, ils les conservaient. Et après, si vous arrivez en disant, vous allez louer mon appareil photo, ils sont écroulés de rire.
Donc en fait, quand vous êtes script, on vous appelle sur un projet, vous venez avec
prête à tourner. Prête à tourner.
Et on s'attend à ça.
Ah ben oui. Ah oui, oui, oui.
Si vous arrivez la main dans les poches, vous n'êtes pas script.
Non, mais c'est même pas... je veux dire, je comprends pas la question, somme toute.
Alberto Moravia. Il y a Brigitte Bardot et Michel Piccoli. Il y a aussi Jacques Palance et Georgia Moll. Et Fritz Lang. Les prises de vue sont de Raoul Coutard. Georges Delerue a écrit la musique. Et le son a été enregistré par William Sibel. Le montage est d'Agnès Guillemot. Philippe Dussard s'est occupé de la régie avec Carlo Lastricati. C'est un film de Jean-Luc Godard. Il est tourné en scope et tiré en couleur par GTC à Joinville. Il a été produit par Georges de Beauregard et Carlo Ponti pour les sociétés Rome Paris Film, Concordia, Compagnia Cinématographique à Champion à Rome. Le cinéma, disait André Bazin, substitue à notre regard un monde qui s'accorde à nos désirs. Et l'histoire de ce monde.
En 1990, vous êtes script sur Jefferson à Paris de James Ivory. Vous relevez une faille dans quelques scènes du film et vous faites corriger un détail qui s'avère être plus qu'un détail. Ce film porte dorénavant vos traces et révèle l'importance de votre métier. Vous pouvez nous raconter cette histoire?
Alors, c'est l'histoire du poignet de Jefferson, mais en fait, ça révèle pas vraiment mon métier, parce que moi, j'ai le sentiment que c'était pas mon métier d'intervenir sur ce sujet, mais comme personne l'avait fait, il fallait bien que quelqu'un s'y colle. Dans ce scénario, Jefferson écrit énormément à la plume. Il a d'ailleurs inventé une machine en bois qui copie ce qu'il écrit à la plume, avec des petits bras articulés de toute beauté. On l'a filmé dans tous les sens. Mais ça veut dire que Jefferson...
La vraie, vous voulez dire
Non, bien sûr, elle a été refabriquée par la vraie, je ne sais même pas si elle existe encore. Oui, la déco a refabriqué une machine où, à la plume, il écrit, il y a tout un tas de petits bras articulés comme ce micro, mais c'est en bois. Et hop, il y a une petite plume à côté qui copie ce qu'il écrit. Donc, il se sert beaucoup de son poignet puisqu'il écrit. Il joue du violon, beaucoup, avec sa fille. Donc, il se sert de ses poignets. Et à un moment, dans un délire amoureux, il veut sauter par-dessus une branche, il se casse la figure et il se foule un poignet. Dans le scénario, il y a un rebooteur qui vient et qui lui remet le poignet. On voit ces scènes, elles existent, on les filme. Et le temps passe et un jour, sa jeune fille va arriver des États-Unis avec la jeune sœur de son esclave masculin qu'il a amené avec lui.
Parce que Jefferson a une esclave.
Eh bien, Jefferson, qui a libéré les esclaves, avait des esclaves. Et il a eu des enfants avec cette jeune esclave. Et jusqu'à la fin de leur vie, ces enfants-là servaient à table les enfants blancs. Jefferson. Mais c'était quelqu'un de formidable quand même, Jefferson.
Et le donc, troisième là... président, non ? Troisième président des États-Unis, je crois. Ouais.
Et donc là, on a une scène qu'on voit où la jeune esclave arrive et où il attrape sa petite fille, la serre dans ses bras, et où cette esclave va lui dire « Mais maître, vous avez encore mal au poignet », et elle va lui faire des onguents comme on faisait là-bas au pays. Un peu magique, un peu... On voit énormément ce poignet qui joue. Et moi, j'assiste aux réunions de production, de lecture du scénario, et je me dis, bon, bah, toute l'histoire du poignet est prévue, on va me donner la continuité. On se calme, c'est un film américain, c'est des gens qui savent mieux que nous. C'est pas vrai. Et je vais voir James Ivory en disant, Jim, j'aurais besoin de la continuité du poignet. Il me regarde avec de grands yeux en disant, mais il n'y en a pas, Jacqueline. Et je dis, il faut qu'on en fasse une, Jim. Oh, il me dit, écoute, va voir ça avec Nick Nolte, qui lui n'était pas venu avec sa maquilleuse, mais avec son historien, et des caisses de livres, très motivé par son rôle. Et donc je vais voir Nick, je lui dis, je crois qu'on devrait faire une continuité pour le poignet. Ah, il me dit, oui, quelle bonne idée. Bah, écoute, débrouille-toi, fais ce que tu veux, puis tu me montres, et puis on verra. Donc je fais, moi, une petite continuité en disant, bah alors voilà, il a un pansement... Après qu'il se soit cassé la figure, il a un autre pansement différent quand il a vu le rebouteux. Au bout d'un moment, peut-être qu'il peut avoir un petit poignet de cuir pour protéger son poignet. Puis quand la petite esclave va lui faire des pansements, bah, ce sera encore un autre système. Et je vais au costume et je leur dis, voilà, est-ce que vous pouvez prévoir quelque chose ? Bon, ah oui, mais le poignet de cuir, c'est pas nous, c'est l'accessoiriste. Je vais voir l'accessoiriste en disant, est-ce que tu pourrais ? Ah oui, bah d'accord, je vais te faire un petit truc, regarde ma puce, ça te va, ça, ouais, très bien. Et je me retrouve à gérer tout ça. Et puis, bah, j'étais toujours à côté de la caméra, parce que c'est ma place, ou assis sous mon petit siège sous la caméra, ou à côté de la caméra. Et quand Nick jouait du violon, ou accueillait la petite fille et la prenait dans ses bras, et Jim me voit, dit, qu'est-ce que t'es en train de faire, là ? Bah, je dis, là, il a encore mal, parce que... Et là, ça l'a... à la fois énervé et ça l'a intéressé. Et il a rajouté une ligne de scénario en demandant à Gwyneth Paltrow de dire « Papa, fais attention à ton poignet, blablabla. » Bon. Et après, je continuais avec Nick de lui montrer à quel degré il avait mal et ce qu'il pouvait pas faire. Mais à ce moment-là, Jim était conscient du poignet. Mais je continue de considérer que les raccords, c'est mon boulot, mais pas de créer les costumes et les accessoires.
Quand j'ai dit métier de script, ce que j'ai voulu dire, c'est ce que vous êtes amené à faire, parfois.
Voilà. Il y a des faillances, et j'assure.
Mais ça ne vous déplaît pas ?
Ah, j'adore.
Vous avez travaillé, je disais, avec quelques grands réalisateurs, James Ivory, mais aussi Wim Wenders, Nikita Mihalkov. Vous devez vous adapter aux méthodes de travail de chacun, j'imagine. Est-ce qu'il y a des réalisateurs, des réalisatrices difficiles ? Est-ce que vous avez déjà eu envie de quitter un tournage ?
Non, jamais.
Jamais.
On quitte pas un tournage.
Même si vous vous rendez compte depuis le tout début que...
Disons que j'ai eu de la chance et que ça m'est jamais vraiment arrivé.
Mais ça peut arriver. Pas vous, mais pas vraiment.
À tous les postes, toutes les situations sont possibles. Vous êtes viré, mais c'est rare qu'on parte parce qu'on supporte pas.
Donc vous devez vous adapter aux méthodes de travail de chacun.
Oui. Ben oui.
Donc, c'est pas vous arrivez, je suis script.
Ben, on s'adapte au plateau. On s'adapte aux méthodes des acteurs. Parce qu'il y a ceux qui connaissent leur texte, comme les acteurs anglais. Et il y a ceux qui trouvent que, faut quand même pas les embêter avec ça. Ça va venir en faisant les répétitions. Il faut s'adapter à ça.
Et des réalisateurs qui vous considèrent, qui vous permettent de leur dire des choses ou d'autres
Ah, ben oui, bien sûr. Parce que une fois qu'on a dit quelque chose d'intelligent, le type, il vous regarde, et puis. Il vous permet de redire une chose intelligente. Mais il ne veut pas qu'on papote, qu'on bavarde, qu'on dise « Ah oui, non, mais moi, je ne mettrai pas la caméra ici, ce n'est pas notre boulot. »
En 1997, vous travaillez avec Nikita Mihalkov sur Le Barbier de Sibérie. Votre image de réalisateur russe s'est effritée avec le temps, mais il y a 30 ans, vous aviez réussi à développer une relation étonnante avec lui grâce à...
Mais je l'admirais énormément. Il y avait ce cinéma russe, l'Arlequin, rue de Rennes, où j'allais régulièrement et tous les ans, pratiquement, il y avait des rétrospectives Mihalkov et c'était une idole absolue. Mais jamais en rêve, j'aurais pensé pouvoir travailler avec lui. Le russe, c'est pas une langue que je pratique. Et j'ai vu une douzaine de fois Partition inachevée pour piano mécanique, mais j'étais en admiration éperdue devant ce type. Et donc, il y a une production française qui va produire Le Barbier de Sibérie. Je pense que ça, c'est le producteur qui m'a présenté à Nikita. Je ne sais pas Je pense que le producteur savait que je parlais italien. Et donc, on a parlé italien. Après, sur le plateau, lui parle italien, anglais, français, comme vous et moi, parle toutes les langues. Mais pour garder le pouvoir, il voulait passer par des interprètes. Il se trouve que personne ne parlait italien en Russie, ni sur l'équipe française, on était cinq. Et il a considéré que son pouvoir n'était pas en jeu, qu'on se parle directement. À la limite, c'était un petit truc en plus pour frimer. Je dis ça, c'est très gentil quand je dis ça. Et donc, je pouvais lui parler. Mais quand je suis arrivée sur le plateau, son assistant m'a dit « Tu ne parles pas au maître ». J'ai dit « Très bien ». Je me suis glissée entre ces deux gardes du corps derrière son fauteuil et je ne mouffetais pas et je notais ce que j'avais à noter jusqu'au jour où j'ai trouvé quelque chose d'intelligent à dire. Et il dit « Ah ouais ». Puis un jour, il a dit « Allez, Jacqueline, à côté de moi, dans la cave où il y a les pommes ». Et donc, je pouvais lui parler. Mais là aussi, on papote pas.
La cave aux pommes, c'est dans le film.
C'est dans le film, il y avait une scène très bas de plafond. On lui avait mis des petites caisses pour que lui puisse s'asseoir. Il a dit « Jacqueline, à côté de moi ». Ouais, j'ai gagné.
Et lorsque vous faisiez les rapports et tout ça, c'était en italien, c'était en anglais?
Alors non, les rapports, on les faisait... Je les faisais en français. Il y en a que je faisais... La production, je le faisais en français, puisque la production était française. Il y en a que je faisais en anglais, probablement le montage. Je sais plus. Mais c'est pareil pour moi, donc...
Et ça vous a aidé, j'imagine, dans votre carrière.
L'anglais a totalement changé ma vie professionnelle, parce que j'aurais jamais fait les films que j'ai faits si j'avais pas été fluent in English.
Vous l'avez appris en Angleterre?
J'ai appris l'anglais à Cambridge.
Sans savoir que vous allez faire ce métier?
Ah non, non, non.
Et l'italien, c'était...
Et l'italien, c'était, je sais pas, je travaillais à Paris, j'étais assez jeune, et je disais, ah oui, tiens, je vais aller faire des cours d'italien, ça peut toujours servir pour aller en vacances. Bingo.
Mais ça va, vous continuez à aller en vacances et vous allez
en Italie. Mais je continue d'aller en vacances en Italie.
Et c'est comment travailler avec Nikita Mihalkov, avec une équipe russe, hein?
C'était génial, j'ai adoré ça. J'ai adoré ça parce que lui, il est acteur. Donc, il avait les meilleurs acteurs du monde. Les acteurs russes, c'est vraiment des grands, grands, grands personnages. Et lui, il les énervait un tout petit peu parce qu'il leur demandait de jouer la scène. Et il prenait un plaisir insensé à les voir répéter. Il disait, non, non, mais attends, attends. Et hop, il les poussait, et il prenait leur place, et il disait, ah, nanana. Et les acteurs disaient, ouais, non, mais bon, alors attends, laisse-moi, c'est mon boulot, c'est mon boulot. Mais j'ai filmé des répétitions entières, c'était tellement beau. On était, nous, on était au cinéma, quoi. On était déjà, enfin non, on était au théâtre, on les voyait pour de vrai s'amuser comme des fous. Et c'était vraiment magnifique.
Donc c'était un beau personnage à l'époque.
Ah, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Parce qu'il avait des idées absolument formidables. C'est quelqu'un qui savait faire des plans, qui composait des plans, faire des choses. Je me souviens, un jour, on devait faire la façade d'un palais. Et c'était juste, voilà, on met la caméra sur un praticable, c'est-à-dire sur une grande plateforme. On fait un plan large, on fait le palais. Et moi, je regarde ma continuité. Et je lui dis, mais Nikita, ça c'est la scène avant le grand bal. Qu'est-ce que j'avais pas dit là ? C'est qu'il a fait éclairer l'intérieur du palais, il a mis des figurants qui faisaient des silhouettes en train de valser, parce que c'est une sorte de continuité. Mais c'était pas écrit comme ça, mais c'était plan général du palais. Mais le simple fait que je lui rappelle que la scène suivante c'était le grand bal, il s'est déchaîné là-dessus. Évidemment, la production vous regarde de travers en disant « Non, mais attends, ça devait être 5 minutes pour faire le plan, là, on en est... »
Mais c'est un film financé par l'État russe, hein?
Alors... Nous, pour rigoler, on disait c'est un film 50-50, 50-50, un rouble, un dollar.
Alors que le
rouble... c'était un franc français d'ailleurs, parce qu'on était en 97, il n'y avait pas encore l'euro.
Alors que le rouble, c'était très faible à l'époque.
C'était rien du tout. Oui. C'était rien du tout, mais justement, nous, ça nous est moins de rien.
Et Oleg Menchikov, vous avez des souvenirs, il est comment?
Ben, très professionnel, très agréable. Très concentré sur son travail. C'est un grand.
Il est magnifique cet acteur, j'aime beaucoup.
Ouais. Il est bouleversant.
Il me semble que James Ivory est votre réalisateur préféré, peut-être ça a changé.
Je ne saurais pas dire le préféré, mais j'ai beaucoup aimé travailler avec lui. J'ai fait 4 films avec lui.
Est-ce que être script, on est cinéphile
du... Ah, bah oui.
Oui.
Ah bah oui, vous pouvez même pas faire ça si vous avez aussi. Mais on est cinéphile, mais c'est bien d'être cultivé, de connaître un petit peu la peinture, de connaître un peu la littérature, parce que si un metteur en scène fait référence à quelque chose qu'il aime, savoir de quoi on parle. Je peux vous montrer une image à la radio?
Si vous pouvez la décrire, oui.
J'ai apporté une carte postale. C'est
Oui.
C'est Vanek. C'est une reproduction du mariage des Arnolfini de Vanek. Et c'était quand j'étais stagiaire avec Polanski. Un jour, il était très, c'est toujours un petit lutin très joyeux de raconter les plans qu'il va faire. Et il dit voilà, on va faire un plan à la Vanek. Oui, le mariage des Arnolfini. Et la moitié de l'équipe fait. Je sais pas de quoi il parle. Mmh. Et puis, Sylvette Baudreau, évidemment, savait que c'était un tableau qui était à Londres. Et donc, il dit, au machiniste, Mimile, passe-moi ta craie. Et il se met par terre et il commence à dessiner les plans de fuite du tableau en disant, voilà, ces deux personnages avec une fenêtre à gauche, la lumière vient de gauche. Et au fond, il y a ce miroir rond où on voit un personnage et on voit Vanek en train de peindre. Et il dit, voilà, parce qu'il faut savoir que Polanski, c'est un fou des reflets. Et son grand truc qu'il avait fait dans le bal des vampires, c'était un immense miroir où toute la troupe est en train de danser. Mais pour filmer ça, caméra face à un miroir, c'est pas facile. Donc, ce qu'il avait inventé sur le bal des vampires, c'était de retirer le miroir, d'avoir toute la troupe de figurants qui dansent en premier plan. De l'autre côté de l'espace miroir, refaire reconstruire le décor inversé et d'avoir le double des acteurs et des figurants qui dansent en face.
Donc recréer le miroir, un faux miroir.
Et là, oui. Dantès, ce qu'il voulait, c'était... Alors, c'était un plus petit miroir, genre 50 par 30, petit miroir. D'avoir les deux acteurs profil-profil en premier plan. Et comme il n'avait pas tout à fait... Je veux dire, il avait des moyens, il avait de gros moyens, mais de mettre un immense miroir qui reflétait le décor à l'envers et de mettre deux doublures avec les mêmes costumes qui feraient la même chose que les acteurs. Et la caméra face au miroir qui n'était plus là. Mais avec le point sur les acteurs en premier plan. Donc les doublures en second plan étaient floues. Un peu floues. Et ça, c'était l'idée. C'était le Vanek qui lui avait donné cette idée. Et ça, c'était juste... Voir ça, c'est un... Moi, je paierais pour ça.
How do you do? I'm Alfred Hitchcock.
84 premières. Hauteur!
Jamais. Jamais. J'ai envie de faire du cinéma.
Disons que je ne nuis pas un film. C'est déjà énorme.
On n'est pas filmé, mais on est parlé. Là, je ne suis pas filmé. Mais je suis parlé.
Tu crois qu'il va me couper, celui-là? Ça te fait gâter la peau.
Voilà. C'est comme ça.
À travers une carrière de la vôtre,
j'ai pas compté.
Vous n'avez pas compté. Vous avez rencontré des équipes, oui,
ouais.
Ça ne compte pas. Enfin, ouais. C'était juste pour avoir une idée. Un peu partout dans le monde, donc des manières de travailler différentes.
Oui, complètement. Complètement, c'est toujours la même chose, mais c'est...
Donc une équipe française travaille autrement qu'une équipe anglaise ou américaine, en Russie ou en Union soviétique, où vous avez eu aussi une expérience même qu'elle ne s'est pas concrétisée. Tout peut fonctionner différemment. Vous pouvez nous parler un peu de ces différences et aussi, y a-t-il une bonne manière?
Alors, la bonne manière, je pense pas. Parce que les Russes, ils ont fait des films tellement extravagants. Enfin, je pense à Guerre et Paix de Bondarchuk. On peut pas le faire. On sait pas le faire. Mais ils ont des équipes énormes. Et ils sont pas pris par le temps. Alors que nous, le temps est tellement cher que les temps de tournage sont très, très, très limités.
Mais là, vous parlez de l'Union soviétique ou même aujourd'hui en Russie?
Ben, à l'époque où moi j'ai travaillé en Russie, il y avait une équipe énorme.
Ah oui, toujours?
Ah ouais. Ah ouais. Énorme équipe. Aux États-Unis, il y a d'énormes équipes. En Angleterre, il y a d'énormes équipes. Mais ils font tellement d'heures par jour qu'ils sont crevés, ils travaillent plus très bien. Et il y a trois fois les postes parce que les gens sont épuisés et on les voit dormir à l'arrière des camions et... Je trouvais que c'était pas très bien. Alors que quand j'ai travaillé avec les Américains en studio de Boulogne, où j'ai fait beaucoup de films américains, Les productions arrivaient en disant, alors attendez, vous allez nous expliquer. L'horaire de travail en studio, c'est midi 7h30. Vous faites une journée de travail en 7h30. Ouais, ouais. Et vous mangez avant, de 11h à midi. Ouais, bien sûr. Et vous buvez du vin à table. Ah ben, bien sûr. Sinon, c'est la grève. Et là, ils baissaient les bras en disant, on n'y arrivera jamais. Et en fait, ils voyaient qu'on faisait les journées de travail intensément. Midi 7h30, on arrêtait, on avait fini, on rentrait chez nous. Et on avait fait la liste des plans à faire ce jour-là. Et la deuxième semaine, les Américains buvaient du vin. Et ils avaient leur gobelet comme tout le monde. Ils trouvaient ça formidable. Et ils rentraient le soir, ils pouvaient aller au cinéma, ils pouvaient voir leurs femmes, leurs enfants. Mais ils n'y croyaient pas à l'origine. Et bon, ben, je trouve que les équipes françaises travaillent vraiment très très bien. Mais j'ai beaucoup admiré les équipes australiennes, qui étaient vraiment formidables. Qui sont un mixte entre la méthode anglaise et la méthode française.
Vous étiez avec Wim Wenders, c'est
ça ? Avec Wim Wenders en Australie.
Vous êtes une collectionneuse. Vous aimez l'art, la littérature, le théâtre, la musique, le cinéma, bien sûr. Votre bibliothèque est impressionnante. Mais vous ramenez aussi des souvenirs des pays, des tournages. Si vous écriviez un livre, un possible déroulement serait fait par ces objets. Tentons de commencer. Deux petites entrées. La rafle.
Vous voulez savoir ce que j'ai rapporté, oui. Ce que j'ai gardé de la rafle.
Donc c'est un film de
Roselyne Bosch et le Veldiv n'existe plus, donc on l'avait fait construire dans un studio à Budapest et le camp de transit n'existe plus non plus, donc on a fait construire tout ça en Hongrie et c'est quand même redoutable de mettre des enfants dans des trains, même si vous savez qu'à l'intérieur du wagon il y a des gens de la régie avec des petits gâteaux et des boissons. J'ai terminé le film, j'avais la tête rentrée à l'intérieur des épaules et j'étais complètement bloquée. Donc c'est vraiment dur. Donc on s'est retrouvés en camp pendant des semaines et des semaines et des semaines. Et au moment de la préparation du film, l'assistant vérifiait que tout allait bien et il voit le fil de fer barbelé, qui est du vrai fil de fer barbelé qui pique. Et il dit à la déco, non, mais tu me changes ça. T'es fou, j'en ai, il y a des kilomètres de fil. Oui, mais moi, je vais rentrer des enfants, des équipes, des acteurs. C'est hors de question qu'on tourne avec du vrai barbelé. C'est trop dangereux. Tu me changes tout ça. Donc, ils ont fait fabriquer du fil, mais les petits piquants, c'était des morceaux de plastique un peu vernis pour que ce soit pas trop mou, pour que quand les gens s'agrippent au barbelé, ça fasse pas pouic-pouic. Donc, on fait fabriquer le fil de fer. Et quand on est parti, j'ai demandé à l'accessoiriste de m'en couper une trentaine de centimètres que j'ai dans ma bibliothèque parce que c'est un souvenir marquant. Et c'est le cinéma. C'est ça, le cinéma. Je dois avoir quelque part dans une boîte un pavé en plastique d'un film de Gérard Houry, mai 68, où les gens lançaient des pavés sur les forces de l'ordre, et où ces pavés-là étaient en plastique, et effectivement faisaient très très attention quand on tournait, parce qu'ils rebondissaient sur le visage des acteurs et des figurants qui jouaient la police. Donc là, ils ne faisaient pas bien le jeu, les accessoires.
Et la balle en étiquette de bobine ?
Alors ça, c'était en Argentine, c'est un film de James Ivory qui s'appelle City of Your Final Destination. Et je me suis aperçue que l'assistante caméra, quand elle retire... Parce que sur la caméra, alors on tournait en film à l'époque, donc c'était des grosses bobines de 300 mètres. C'est vraiment des gros monuments. Et sur l'extérieur de la caméra, on met le numéro, alors on met le style de pellicule qu'on a à l'intérieur, c'est leur soupe. Et les numéros des bobines que moi je mets sur les rapports images. Et donc c'est des Chatterton, jaune, rouge, bleu, vert, suivant le code de l'assistant caméra. Et je voyais l'assistante qui arrachait les scotch, mais au lieu de les mettre à la poubelle, elle faisait une petite balle et je trouvais ça très joli et je lui ai dit mais qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu les mets en balle au lieu de les jeter? Elle dit c'est pour le chien de ma chef. Bah, je dis mais tu sais, tu devrais en donner une petite balle à Jim, ça lui plairait beaucoup. Donc elle lui a gardé une petite balle et lui il était fou de joie, mais fou de joie.
Mais vous l'avez chez vous, oui.
Et bah, moi j'ai eu ma petite balle aussi parce elle aurait pu en faire des dizaines et des dizaines, mais je suis tombée sur le jour où elle faisait la petite balle pour le chien, puis je pense qu'après elle les mettait à la poubelle parce qu'on en jette beaucoup du Chatterton.
On l'avait dit, vous avez été stagiaire de Sylvette Baudreau sur Tess, c'était en 81. Vous avez vécu aussi le passage au numérique.
Oui.
Est-ce qu'il y a des choses qui se perdent?
Alors,
et qu'est-ce qu'on gagne?
Comme c'est fait par les mêmes gens, on essaie de pas perdre puisqu'on a le même respect, mais quand on considérait ça comme de la vidéo en disant c'est pas bien, et c'est vrai qu'on a eu tendance à plus faire de répétitions en disant mais qu'est-ce qu'on s'en fiche, ça coûte rien. tournons. Et nous, on aimait bien répéter pour savoir où le micro de la perche va se placer, pour savoir si la lumière est bien placée, moi, si l'acteur se lève, les gestes qu'il fait, que je note au crayon dans mon scénario. Si j'ai pas de répétition et qu'on me demande sur quelle ligne elle a mis la main dans sa bouche, je me dis, mais j'en sais rien, moi, les gars. Si j'ai pas eu de répétition, je peux pas savoir sur quelle ligne il s'assied. Bon, je peux le faire à la volée, mais si l'acteur a pas répété, ce sera pas régulier. Et pourtant, on a besoin de savoir par rapport au gros plan sur quel mot il s'assied.
Et qu'est-ce qu'on gagne ?
Avec le numérique ? Bah, c'est moins cher. Et ce qu'on gagne, c'est beaucoup de temps, parce que le temps de lumière, on doit éclairer beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Nous, les scripts, on a perdu, parce que comme on n'éclaire plus, enfin, ils éclairent un tout petit peu, mais ce temps d'éclairage nous servait à faire nos rapports. Et bah là, on n'avait plus le temps. Et donc, au lieu de faire 12 plans par jour, enfin 10-12 plans par jour à l'ancienne, on en faisait 30-40 et on n'a plus du tout le temps d'écrire. Donc, on a dû un petit peu réinventer nos manières de faire les rapports parce qu'on ne pouvait plus les faire comme autrefois.
Et le temps de tournage, ça réduit aussi, non ?
Le temps de tournage, effectivement, au lieu de faire 32 jours, ben, on en fait 28, 25, 24, 20.
Et vous êtes payé à moins ?
À la semaine, oui. Bah oui, le film dure moins longtemps, donc on est moins payé. On est payé à la semaine.
Est-ce qu'il y a des rencontres qui ont beaucoup compté dans votre vie professionnelle ? C'est à travers elles que vous êtes devenue ?
Peut-être Wim Wenders, parce qu'il a un œil tellement photographique, il a un œil qui cadre. Donc regarder les choses comme il les regarde, c'est très beau.
C'est une question, je me demande si je la prends.
Allez-y.
Qu'est-ce que le cinéma pour vous ?
Le cinéma, bon, bah, j'ai passé un grand moment de ma vie et je me suis vraiment bien amusée. J'ai fait des beaux voyages. J'ai appris énormément, mais énormément. Parce que quand on travaille sur le scénario tiré d'un livre, bah, moi je lisais le livre. Tout le monde ne le fait pas, mais moi je lisais le livre. Et quand on fait un voyage, je me renseignais sur le pays, je lisais des livres d'écrivains de ce pays-là, je lisais sur ce pays. Dans la mesure du possible, j'étais j'essaye de rester un petit peu avant ou un petit peu après pour voir de moi-même. Et c'est des occasions magnifiques parce qu'on est avec des équipes locales qui vous montrent ce qu'on mange, comment on le mange, avec ce qu'on boit, qui vous parlent de leur culture.
Il y a toujours, quand on tourne à l'étranger, il y a toujours des équipes locales.
Absolument, oui, oui.
Qui se rajoutent à l'équipe.
Alors, oui. Oui, oui. On est toujours, pour des questions d'argent, la production française essaie d'envoyer le moins de techniciens et de prendre des locaux pour assurer tous les postes. Et il y a dans tous les pays, il y a des gens vraiment compétents.
Nous allons clore maintenant la première partie de notre conversation. Nous allons nous revoir pour la deuxième partie de cet entretien où nous allons continuer à parler cinéma, rencontres, transmissions. Merci Jacqueline Gamard pour votre présence.
Merci Fabiola de votre écoute. Don't.